À boire ? Demanda Grushenka. Je veux m'enivrer, comme l'autre jour. Tu te rappelles, Mitya, quand nous sommes venus ici pour la première fois ? Mitya était comme fou de joie. Il pressentait son bonheur, quoique Grushenka l'éloignât d'elle. « Va, lui disait-elle, dis-leur de danser, de se réjouir. » Le cœur de Baba était au complet. Les Juifs, avec leurs violons et leurs sitars, étaient arrivés aussi. Mitya s'agitait au milieu de tout ce monde. Des moudjigs, des étrangers, déjà couchés, s'étaient réveillés et levés. Mitya les embrassait et leur faisait servir à boire et à manger. Cette kermesse lui allait. Il y était comme dans son élément. Grushenka, de la porte, le regardait. Tout à coup, elle vint à lui, le saisit par la main. « Mais comment es-tu entré dans ta l'heure ? J'avais si peur. Tu voulais me laisser à lui, hein ? Oh, tu le voulais vraiment. »« Bon, non, je ne voulais pas troubler ton bonheur. » Mais elle n'écoutait déjà plus. « Va, régis-toi, ne pleure pas. » Je te rappellerai tout à l'heure. Il s'en allait. Elle écoutait les chansons, regardait les danses et suivait Mitya du regard, puis le rappelait. Assieds-toi près de moi. Raconte-moi comment tu as appris que j'étais ici. Mitya entama son récit, mais parfois il fronçait le sourcil et s'interrompait. Mais qu'as-tu ? Lui demandait-elle. « Rien, je laissais là-bas un malade. Ah, oh, s'il pouvait guérir. Ah, oh, pour savoir seulement qu'il guérira, je donnerais 10 ans de ma vie. Mais laisse-le en paix, ton malade. Alors vraiment, tu voulais te tuer demain matin ? Fou, et pourquoi ? Mais les fous comme toi me plaisent. Alors, tu ferais tout pour moi et... Va, au lieu de te tuer... Tu entendras peut-être de moi un petit mot, pas aujourd'hui, demain. Tu voudrais aujourd'hui, mais je ne veux pas, va-t'en. » Une fois encore, elle le rappela et lui demanda avec inquiétude. « Mais qu'as-tu donc ? Tu es triste. Car tu es triste, je le vois. Tu embrasses des moudjiks, tu chantes, mais au fond tu es triste. Mais sois gai pour que je rie. Qui est-ce que j'aime ? Devine qui ? » Mitya avait la tête en feu. Il alla sur le balcon. L'air frais le calma. Seul dans l'obscurité, il saisit sa tête entre ses mains. Les pensées éparses se groupèrent tout à coup et la lumière jaillit dans son esprit. Quelle terrible lumière ! « Si je me tuais, pensa-t-il, mais comment, quand me tuerais-je, si ce n'est maintenant ?» Il restait indécis. Tout à l'heure, en venant à Montcroyer, il laissait derrière lui la honte, le vol, le sang, et ce sang. Mais il se sentait mieux que maintenant, beaucoup mieux. Tout était fini. Grushenka, un autre, perdu pour lui. Il avait été facile de prendre un parti, car que lui restait-il désormais ? Mais maintenant, ce fantôme terrible, cet homme fatal, l'ancien amant de Grushenka, était loin. Il s'était transformé en un ridicule, être grotesque, enfermé, comme un enfant dans le cabinet noir. Et pourtant... Quel est celui qu'elle aime ? Ah, ce serait le moment de vivre et c'est impossible. Oh, malédiction ! Seigneur, ressuscite celui qui gît là-bas, près de la haie. Épargne-moi cette coupe amère. Tu peux accomplir des miracles, Seigneur, et c'est pour des pécheurs comme toi que tu daignes en accomplir. Si le vieillard vit encore, ou alors... Je me laverai moi-même de mes autres hontes, je rendrai l'argent volé, je le trouverai de sous terre. Cet opprobre m'aura laissé de traces qu'au fond de mon cœur. Mais non, c'est un rêve impossible. Oh, malédiction! Une espérance brillait pourtant parmi tant de ténèbres. Il se rejeta dans la chambre, vers elle, vers sa reine pour l'éternité. Est-ce qu'une heure, un instant de son amour ne vaut pas tout le reste de la vie, même les tortures de la honte? Seul avec elle, la voir, l'entendre, ne plus penser, oublier tout. Au moins, cette nuit, une heure, un instant. Grushenka n'était plus dans la salle. Il regarda dans la chambre voisine. Elle était assise sur une malle et penchée sur le lit. Elle pleurait à chaudes larmes en s'efforçant d'assourdir ses gémissements. En apercevant Mitya, elle lui fit signe de venir. Il s'approcha. Elle lui prit la main. Mitya, Mitya, je l'aimais, je n'avais pas cessé de l'aimer durant ces 5 années. Était-ce lui ou ma rancune? Non, c'était lui, oh, c'était lui. J'ai menti en disant que c'était ma rancune. Mitya, je n'avais que 17 ans alors. Il était si tendre avec moi, si gai. Il me chantait des chansons. Ou peut-être me semblait-il ainsi à moi, sotte fillette que j'étais. Mais maintenant, mais ce n'est pas lui. Il ne lui ressemble même pas. Ce n'est pas son visage. En venant ici, je me demandais ce que j'allais lui dire. Et comment nous nous aborderions? Quel serait notre premier regard? Toute mon âme se tendait vers lui. Maintenant, on dirait qu'il a jeté sur moi un baquet d'eau sale. On dirait un outchitel pédant, tranchant de l'important. Bon, j'étais comme ahuri. Je pensais d'abord qu'il était gêné par la présence de son camarade aux longues jambes. Et je me demandais, mais pourquoi ne puis-je lui parler comme jadis? Sais-tu, c'est sa femme qui l'a gâté, celle pour laquelle il m'a abandonné. Mitya, quelle honte! Oh, que j'ai honte, Mitya, que j'ai honte! Honte pour toute la vie! Maudit soient ces 5 ans! Elle fondit de nouveau en larmes, tout en pressant dans les siennes la main de Mitya. Mitya, mon ami, attends, ne t'en va pas. Je vais te dire un mot, murmura-t-elle en le regardant. Dis-moi, qui est-ce que j'aime? J'aime ici un certain homme, dis-moi lequel. Et sur son visage gonflé de larmes, brilla un sourire. Il entre, mon cœur se serre. Sotte, voilà celui que tu aimes, me dit mon cœur. Oh, Mitya, et la joie te suivait. Mais de quoi a-t-il peur, pensais-je? Car tu avais peur, tu ne pouvais pas parler. Ce n'est pas d'eux que tu avais peur. Est-ce que tu peux avoir peur d'un homme? C'est de moi qu'il a peur, de moi seul. Mais Fénia ne t'a donc pas dit, sot, que je t'avais aimé pendant toute une heure. Dire que je voulais en aimer un autre? Mitya, Mitya, comment ai-je pu penser que j'en aimerais un autre après toi? Me pardonnes-tu, Mitya? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Elle se leva, lui mit ses deux mains sur les épaules. Lui, muet de bonheur, la regardait du fond des yeux, la contemplait. Tout à coup, il la prit dans ses bras. Me pardonnes-tu toutes tes souffrances? C'est par méchanceté que je vous torturerai tous. C'est par méchanceté que j'ai rendu fou le vieux. Te rappelles-tu quand tu as cassé un verre chez moi? J'ai fait de même aujourd'hui en buvant. à mon vil cœur. Mitia, mon cher, pourquoi m'embrasses-tu? Il m'embrasse, puis il me regarde et m'écoute. Mais pourquoi m'écouter? Embrasse-moi plus fort, c'est cela, quand on aime. Oh, je serai maintenant ton esclave pour toute la vie. C'est doux d'être une esclave. Embrasse-moi, fais-moi souffrir, fais de moi tout ce que tu voudras. Oh, il faut me faire souffrir. Mais non, arrête. Après, oh, je le veux, dit-elle tout à coup en le repoussant. Alors va-t'en, je veux boire, je veux être ivre, je veux danser, je veux. Elle s'arracha de lui et sortit. Mitia la suivit en chancelant. Quoi qu'il arrive, soit je donnerai le monde entier pour un tel instant, pensait-il. Grinushka but un verre de champagne qui l'étourdit. Elle s'assit dans un fauteuil et un sourire de bonheur lui vint aux lèvres. Ses joues se coloraient, son regard alangui appelait Mitia. « Mais pourquoi ne bois-tu pas, Mitia? J'ai bu, moi. »« Bon, je suis ivre déjà, ma chère, je ne veux plus de vin. » Néanmoins, il vida un verre et la tête lui tourna tout à coup. Rien encore n'avait pu l'ébranler, et ce dernier verre le grisait complètement. Sais-tu, Mitia, je veux aller au monastère. Vraiment, j'irai dès le jour. Alyosha m'a dit aujourd'hui une parole que je n'oublierai jamais. Oui, mais pour aujourd'hui dansons. Demain au monastère, aujourd'hui au bal. Rions, bonnes gens, Dieu nous le pardonnera. Si j'étais Dieu, je pardonnerais à tout le monde. Mes chers petits, pauvres pécheurs, je vous fais grâce. Je veux même demander pardon aux autres. Pardonnez, bonnes gens, à la sotte Baba. Je suis une bête fauve, voilà ce que je suis. Mais je sais prier, prier. Oui, une misérable telle que moi osera prier Dieu. Et Mitia, qu'on danse, ne les empêche pas de danser. Tout le monde est bon, vois-tu, tout le monde. On est si bien dans la vie. Si méchant qu'on soit, il fait si bon vivre. Et ainsi divaguait Grushenka, sous l'influence d'une ivresse croissante. Elle finit par déclarer qu'elle voulait danser elle-même. Elle se leva, mais se soutenait à peine. « Mais Mitia, ne me donne plus de vin. Même si je t'en demande, ne m'en donne plus. Le vin me fait mal. Oh, tout tourne. Mais je veux danser. On va voir si je sais danser. » C'était un projet très arrêté chez elle. Elle tira de sa poche un mouchoir en fine batiste, le prit par un bout et se mit à l'agiter en pirouettant. Les moujiks se turent, se préparant à entonner en chœur au premier signal la Piastovafaya. Maximov, apprenant que Grushenka voulait danser, poussa un cri de joie et se mit à sauter autour d'elle en chantant. Mais Grunchka l'encarta. Chut, Mitia! Que tout le monde vienne me regarder. Appelle aussi ceux qui sont enfermés. Pourquoi les as-tu enfermés? Dis-leur que je danse, qu'ils viennent me voir. Mitia frappa de toutes ses forces à la porte des Polonais. Hey, vous autres, les Panov, sortez! Elle danse et vous appelle. Blaïdak! Grogna l'un des deux Polonais. Misérable. Podlaïdek, toi-même, petit Podlaïdek. Vous feriez bien de plus vous moquer de la Pologne, observa gravement Galganov. C'est bon, mon fils, en le traitant ainsi, je n'ai pas voulu exprimer mon opinion sur tous les Polonais. Un seul Laïdek ne constitue pas toute la Pologne. Tais-toi, joli gamin, et mange des bonbons, va. Pendant ce temps, Grushenka essayait vainement de danser. « Elle a bu, la Marinia !» disaient les mamas. « Hi, hi, elle a bu ! Hi, hi !»« Mitya, emmène-moi loin d'ici. Prends-moi, Mitya !» Mitya la saisit dans ses bras et la porta sur le lit dans la chambre voisine. La fête continuait, et au bruit des cris de joie et des chants, Mitya caressait Grushenka. « Laisse-moi, laisse-moi, » dit-elle d'une voix suppliante. « Ne me touche pas avant que je sois à toi. Je te dis que je serai tienne, épargne-moi encore, tant que les autres seront là. Il est ici, cela me fait horreur. » J'obéis, pas même la pensée. Bon, je te respecte, murmurait Mitya. Oui, oh, c'est dégoûtant ici, oh oui, c'est dégoûtant. Et sans cesser de l'étreindre doucement, il s'agenouilla près du lit. Mitya, certes tu es un tigre, mais que tu es noble. Oui, il faut que ce soit honnêtement, toujours honnêtement désormais. Soyons honnêtes, bons, ne vivons pas comme des bêtes, soyons bons. Emmène-moi loin, entends-tu ? Je ne veux pas ici, mais loin, loin. Absolument, dit Mitya en étreignant plus fort, je t'emmènerai au bout du monde. « Oh, je donnerai toute ma vie pour une seule année de toi, pourvu que je sache sur ce sang. »« Quel sang ?»« Rien, » fit Mitya en grinçant des dents. « Grushka, tu veux que ce soit honnêtement ?»« Mais sais-tu que je suis un voleur ? J'ai volé 4 cas. Oh, honte, oh, honte !» Katka, cette Barishnia ? Mais non, tu ne lui as rien volé. Tu lui rendras, tu prendras de l'argent chez moi. Qu'as-tu ? Mais tout ce qui est à moi est à toi. Que me fait l'argent ? Nous le dépenserons sans compter. C'est notre caractère, n'est-ce pas, prodigue ? Et puis nous irons ensuite labourer la terre. « Oui, je fouillerai la terre avec ces mains-là. Il faudra travailler, entends-tu ? Alyosha me l'a ordonné. Je ne serai pas ta maîtresse, mais ta femme, ton esclave, je travaillerai pour toi. Nous irons tous deux chez la Barishnia. Nous la saluerons, nous la prierons de nous pardonner et nous partirons. Mais si elle refuse de nous pardonner d'ailleurs, nous nous passerons de son pardon. » « Rends-lui son argent à elle et à moi, donne-moi ton amour. Ah, ne va pas l'aimer, ne l'aime plus. Si tu l'aimais, je t'étranglerai. Je lui crèverai les yeux avec une aiguille. Je t'aime, je n'aime que toi. Je t'aimerai en Sibérie. Pourquoi en Sibérie ? Sois en Sibérie, si tu veux. Nous y travaillerons. Il y a de la neige. J'aime voyager à travers la neige. J'aime les tintements de la sonnette. Oh, entends-tu, en voici une qui teinte. Oh, où est-elle donc ? Des voyageurs qui passent sur la route. » Elle s'est tue. Grushenka ferma les yeux, mais parut s'endormir. Une sonnette, en effet, avait teinté dans l'éloignement. Mitya appuya la tête sur la poitrine de Grushenka. Il ne s'apercevait pas que la sonnette avait cessé de tinter, que les chansons s'étaient interrompues et qu'un joyeux cri d'ivresse succédait un silence de mort. « Oh, qu'est-ce donc ? J'ai dormi ? Ah oui, la sonnette ! J'ai rêvé que je voyageais à travers la neige. La sonnette tintait. J'étais assoupi. Nous étions ensemble, nous allions loin, loin. Je t'embrassais, je te pressais contre moi. Je me serrais dans tes bras, j'avais froid. Et la neige étincelait. Oh, tu sais, par les nuits de lune, comme la neige étincelle, il me semblait n'être plus sur la terre. Je me réveille et je retrouve ma bien-aimée près de moi, comme c'est bon. Tout à coup, il sembla à Grushenka qu'elle regardait au-delà de lui, au-dessus de sa tête, et que son regard devenait étrangement fixe. L'étonnement et presque la frayeur se peignaient sur son visage. « Mitya, qui est-ce qui nous regarde ?» dit-elle tout bas. Mitya se retourna et aperçut un homme qui avait soulevé les rideaux et regardait dans la chambre. Mitya se leva vivement et s'avança vers la porte. « Venez ici, je vous prie, » fit une voix basse mais ferme. Mitya sortit de la chambre et s'arrêta, interdit. Toute la grande salle était pleine de gens inconnus. Un frisson courut le dos de Borsia. Il tressaillit. Il avait compris à qui il avait affaire. Ce vieillard de haute taille, en paletot, en képi d'uniforme, c'est l'ispravnik Mikhail Makharovitch, et celui-ci, le Patriani, le dandy toujours chaussé de bottes bien cirées, oh, c'est le substitut du procureur. Il possède un chronomètre de 400 roubles, il me l'a montré dans le temps. Et celui-là, petit jeune avec des lunettes. Mitya ne se rappelait pas le nom, mais reconnaissait la figure, une figure qu'il avait déjà vue, naguère, chez le juge d'instruction. Ah oui, c'est une récente recrue de l'école de droit. Et cet autre? Ah, c'est le Stanovoy. Mavriki, Mavrikitch. Oh, Mitya le connaît très bien. Et ceux-là, avec leurs plaques en cuivre, que font-ils ici? Et des bougies, et au fond, près de la porte, Kalganov et Trifon Borisitch. Messieurs, qu'y a-t-il donc, messieurs? Dit d'abord Mitya. Mais tout à coup, il s'écria à pleine voix. « Oh oui, je comprends !» Le jeune homme aux lunettes s'approcha de Mitya et commença d'un air important, mais avec précipitation. « Nous avons à vous, enfin, en un mot, je vous prie de nous asseoir ici, sur le divan. Il faut nous expliquer avec vous. »« Oh, le vieillard !» s'écria Mitya hors de lui. « Oh, le vieillard sanglant, je comprends !» Il tomba sur le siège qu'on lui indiquait. « Tu comprends, oui, tu as compris. Parricide, misérable. Le sang de ton vieux père crie contre toi !» hurla tout à coup le vieil Ispravnik en s'approchant de Mitya. Il était tout rouge et tremblait de colère. Mais c'est intolérable, s'écria le petit jeune homme. Mikhail Makarovitch, Mikhail Makarovitch. Mais ce n'est pas comme cela, ce n'est pas cela. Je vous prie de me laisser parler. Je n'aurais jamais attendu cela de vous. Mais c'est du délire, messieurs. C'est du délire, reprit Ispravnik. Regardez-le donc. De nuit, ivre avec une fille publique, toute tachée encore du sang de son père. C'est du délire. Je vous prie instamment, mon cher Mikhailo Mikhailovitch, de contenir vos sentiments, dit le substitut. Autrement, je serais forcé de prendre. » Le petit juge d'instruction l'interrompit et, s'adressant à Mitia, lui dit d'un ton ferme : « Monsieur le lieutenant en retraite Karamazov, je dois vous déclarer que vous êtes accusé d'avoir tué votre père, Fiodor Pavlovitch Karamazov, qui a été assassiné cette nuit. » Mitia écoutait sans comprendre et les regardait tous d'un air effaré.